Najat Vallaud-Belkacem, bonjour.
Bonjour.
Il y a quelques jours, au forum virtuel de Davos, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa a dénoncé les pays riches qui accaparent les vaccins. Il a raison ou il a tort ?
Non, il a évidemment raison de s'en prendre aux pays, en effet, qui font des réserves de vaccins au détriment des pays les plus démunis. Et on a des chiffres aujourd'hui qui nous permettent de dire que, par exemple, le Canada a commandé l'équivalent de 9 fois sa population en termes de doses de vaccins, ou qu'en Europe, nous en avons commandé 3 fois notre population. Il y a évidemment une urgence absolue en ce moment, c'est de veiller à l'équitable, à la juste distribution du vaccin, puisque personne ne sera à l'abri tant que tout le monde ne l'est pas.
Alors, quand on est le président des États-Unis ou de la France et qu'on est face à une pandémie mortelle, est-ce qu'il n'est pas normal qu'on pense en priorité à la vaccination de ses compatriotes ?
Alors, cela peut sembler intuitif. En réalité, c'est contre-intuitif, puisque précisément, on le sait aujourd'hui, si nous ne veillons pas à vacciner l'ensemble de la population vulnérable de chaque État du monde, eh bien, en réalité, nous ne sommes aucunement à l'abri. Et nous avons un risque de mortalité tous ensemble deux fois plus important si nous ne vaccinons qu'une partie du monde et de façon exclusive, plutôt que si nous veillons, comme l'indique l'Organisation mondiale de la santé, à vacciner pour commencer les 20% de la population de chaque pays. Donc aujourd'hui, il est avéré que ce virus, notamment ces variants qui apparaissent au Brésil, en Afrique du Sud, en Grande-Bretagne, ne s'arrêtera pas si nous ne sommes pas en capacité de faire de la coopération le maître mot de notre réponse.
Autre raison de la colère de Cyril Ramaphosa, l'Afrique du Sud va payer ses vaccins deux fois et demi plus cher que les pays de l'Union européenne. Mais n'est-ce pas, pour les pays européens, un simple retour sur investissement, un an après le déblocage de milliards d'euros en faveur des laboratoires de recherche ?
Mais les milliards d'euros, en effet, on estime à 10 milliards d'euros les financements débloqués pour soutenir la recherche et développement pour ce vaccin, ont vocation précisément à être utiles à la protection de l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, le fait que, en effet, le vaccin AstraZeneca revienne deux fois et demi plus à l'Afrique du Sud qu'à nos pays de l'Union européenne est un scandale et il faut que nous soyons tous d'accord pour le dénoncer, c'est-à-dire que les laboratoires pharmaceutiques, compte tenu des financements publics qu'ils ont reçus, doivent jouer le jeu. Jouer le jeu, ça veut dire faire la plus grande transparence, notamment sur leur tarification, et faire en sorte que soit servi l'ensemble de la population du globe, puisque c'est aussi dans l'intérêt des pays riches que la population des pays les plus vulnérables soit protégée.
Il y a 6 ans, la communauté internationale s'est engagée à faire disparaître l'extrême pauvreté en 2030. Mais dans votre livre, Objectif 2030, vous dites que la pandémie du Covid-19 risque de tout remettre en question. Est-ce qu'on sait déjà qu'on n'y arrivera pas ?
Oui, malheureusement, puisque rien que sur l'année 2020, on estime à une augmentation de 17% la part de la population vivant sous l'extrême pauvreté. C'est des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis les années 90. Donc, il est plus que temps de se retrousser les manches et au-delà de cette question du vaccin, qui est extrêmement importante en ce moment, se rappeler qu'il s'agit aussi d'extirper de cette extrême pauvreté des populations qui, aujourd'hui, n'ont accès ni à des traitements pour le Covid-19, ni à des traitements pour d'autres pandémies comme la rougeole, la rubéole, la tuberculose, la malaria. Il y a aussi ces maladies-là qui tuent. Il ne faut pas l'oublier, le sida, évidemment, d'autres maladies qui tuent.
Alors, à la tête de l'ONG One pour la France, vous plaidez pour un renforcement mondial de l'aide publique au développement. Mais vous savez ce que disent beaucoup de gens, l'APD, l'aide publique, ne fait qu'alimenter la corruption dans les pays qui en bénéficient.
Cela fait partie, en effet, des caricatures qui sont souvent faites de l'aide publique au développement et que je passe en revue dans ce livre pour en finir avec des idées reçues. Il faut savoir que, oui, de la corruption, il y en a, qu'elle a été évaluée. S'agissant de l'aide publique au développement, on estime que 1,4% des sommes investies, en effet, finissent en pot de vin ou en corruption. Donc, il faut lutter contre la corruption, mais la vérité, c'est que la politique publique de l'aide au développement est sans doute l'une de celle qui est la plus contrôlée, la plus surveillée dans ce pays.
Dans votre livre Objectif 2030, vous regrettez, Najat Vallaud-Belkacem, que la France ne consacre que 0,4% de son revenu national brut à l'aide publique au développement. Mais c'est à partir de 2014 que cette aide a beaucoup baissé. Vous étiez ministre à l'époque. Est-ce que vous faites votre mea culpa ?
Bien entendu, et de manière générale, l'aide publique au développement s'est mise à baisser dans nos pays à partir de la crise financière de 2008 aussi, qui a constitué un véritable tournant, et c'est à ce moment-là que nous avons dévié de notre trajectoire. Nous en sommes à 0,44 aujourd'hui. Une loi va passer sur le sujet au Parlement français. Nous devons être ambitieux et assumer d'atteindre ces 0,7% le plus rapidement possible. La crise du Covid-19 ne peut que nous y pousser, évidemment, puisque les besoins sont encore plus importants qu'avant la crise. Et c'est bien la raison pour laquelle nous plaidons pour que cette loi qui va passer au Parlement soit plus ambitieuse que nous ne l'avons jamais été. De la même façon, autre mauvaise construction ou dysfonctionnement, nous devons en finir avec cette pratique dite de l'aide liée où on va aider un pays, mais en lui demandant de faire intervenir une de nos entreprises pour bâtir une autoroute, un pont, une usine. Nous ne sommes pas là pour placer nos entreprises.
Oui. Mais c'est ce que font les Américains ou les Chinois. Les Français devraient-ils être plus naïfs?
Mais vous savez, ce livre et ce plaidoyer s'adressent à tous ceux qui considèrent qu'aujourd'hui, dans le monde d'interdépendance dans lequel nous vivons, seule la coopération nous sauvera tous. Et la coopération, ça veut dire ne pas se lancer dans une espèce de compétition au plus cynique. Au contraire, se demander finalement qu'est-ce qui nous sert. Ce qui nous sert, c'est qu'il n'y ait plus aucune personne, aucun individu dans le monde qui soit plongé dans cette situation d'extrême dénuement, qui est source de tensions, de guerres, de files de réfugiés qui arrivent finalement devant nos portes. Donc c'est bien dans l'intérêt compris de chacun des pays du monde d'installer cette solidarité, cette coopération sans arrière-pensée.
Najat Vallaud-Belkacem, pourquoi dites-vous que la pauvreté est sexiste et que le développement doit être féministe ?
Pour une raison très simple, c'est que dans les pays dont on parle, cette extrême pauvreté, elle se fait sentir en particulier sur les populations féminines, dans la mesure où ce sont elles qui, généralement, sont sans emploi ou en emploi informel. Et on l'a vu, hein, lorsque la crise du Covid-19 a éclaté, eh bien, ce sont les femmes qui, les premières, ont dû interrompre toute activité, n'avaient aucun moyen de subsistance, ont dû se serrer la ceinture pour préserver notamment les plus vulnérables de leur famille. La pauvreté, ça a comme effet un moindre accès à l'éducation pour les filles, des problématiques de santé, notamment de santé reproductive et sexuelle, qui sont extrêmement lourdes, et donc finalement une incapacité pour la moitié de l'humanité dans ces pays-là de s'émanciper et de devenir à leur tour des acteurs de la croissance économique, des acteurs du changement. Et c'est la raison pour laquelle l'aide publique au développement doit aussi veiller à chaque fois à soutenir des projets qui font sortir les filles et les femmes de l'ornière.
Najat Vallaud-Belkacem, merci.